RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Oh, yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, c'est votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr. Et on connaît donc le champion NBA. Le champion NBA, ce sont les Boston Celtics. 18e titre de leur histoire. C'est désormais la franchise la plus titrée. Et c'est la raison pour laquelle Arnaud Valadon est venu en studio vêtu d'un maillot et d'un survêtement des Celtics. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous, c'est une très belle journée.
Ce n'est pas la raison pour laquelle Fred Weiss est venu en studio sans le maillot des Boston Celtics, car il déteste les Boston Celtics.
Mais c'est faux, je les aime pas trop.
Et puis, dans le camp, moi, je pense plutôt de des Fred, déçus. Des déçus, il y a quand même Steve,
oui,
le fan des Mavericks.
Je suis déçu, mais je déteste pas Boston.
C'est incroyable parce que vous avez tous un petit peu un parti pris, et ce parti pris correspond bien quand même à cette finale NBA qui opposait Boston à Dallas.
C'est-à-dire un parti pris décevant ?
Non, un parti pris, je veux dire, plutôt émotionnel, un parti pris dans l'affect, quoi. T'es déçu sans plus ce Steve,
non ? Non, je suis content d'être là.
Ouais, content d'être là. C'était pas les plus grandes finales NBA.
Écoute, si tu m'avais dit que le 10 juin, on allait faire le débrief des finales NBA avec les Mavs, j'aurais été très content.
On va pas se mentir, c'était pas des grandes finales.
Non, c'était nul.
C'était trop déséquilibré. Non, mais sans parler.
Nul.
Sans parler du résultat, on est d'accord. Hein.
Ah, nul, pas de suspense. Deux matchs intéressants.
Jamais de suspense,
deux matchs
ouais.
intéressants sur cinq. Voilà, pas de match d'anthologie, pas de performance d'anthologie. Il n'y a pas eu un 40, un 45,
pas
un 50
pion d'un mec. De folie, rien.
Non, donc voilà, petite finale NBA.
Petite finale NBA. Ça ne va pas nous empêcher d'en parler. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des gros débats. Alors, on ne va pas te faire l'injure, Fred, de poser la question, les Boston Celtics sont-ils la plus grande franchise de la NBA ?
Tu devrais.
Mais on va quand même poser la question dans un débat. Ça serait dommage de s'en passer, non ?
Bien sûr.
Bon. Les Celtics sont-ils trop forts pour la Ligue ? C'est notre première question. Que manque-t-il à Dallas pour aller au bout ? Et on a quand même trouvé un moyen de parler des Lakers, parce que l'actualité, c'est aussi la disparition de Jerry West. Nous allons donc parler de la légende Jerry West dans la partie historique. Et puis le quiz. Ma foi, le quiz sera un quiz d'actualité, donc j'espère que tu as bien révisé tes Boston Celtics.
Je les connais par cœur.
Tu les connais par cœur. Quel gros rageux ce Fred quand même, non ?
Je suis pas rageux du tout, j'ai rien dit. Je dis que ça me dérangeait pas tant que ça.
Qu'est-ce que tu notes là ? T'as récolté l'information ?
Oui, voilà. C'est je note des trucs, je note Boston rageux. Celtics, j'essaie d'écrire le nom.
Allez, c'est parti donc pour un Basket Time spécial 18... Voilà, oh, on recommence. On fait comme si il y a du montage dans cette émission.
Oui.
C'est parti pour un Basket Time spécial 18e titre des Boston Celtics.
It's the Dallas Mavericks and Boston Celtics game 5 of the NBA Finals. Jaylen Brown comes flying in on the pass from Holiday. Tatum spinning, driving, layup, got it. Stolen by Tatum. Tatum goes up and lays it up and in. The corner, White sets back three-pointer. It's good. An 18-point lead. Tatum sidestep three-pointer. It's good. Jason Tatum from downtown again. The best team in basketball all year.
To the Boston Celtics, congratulations. And the NBA record, 18 championships. Bill Russell would be so proud. The 2024 Bill Russell Finals MVP goes to Jaylen Brown.
Bill Russell serait fier de ses Boston Celtics et de Jaylen Brown qui est le MVP des finales. Et ça, quelque part, ça fait plaisir à Fred Weiss. On y reviendra tout à l'heure parce que la question pour l'heure est d'évaluer un peu ce titre. Les Celtics sont-ils trop forts pour la Ligue ? Honnêtement, cette finale, elle a été expédiée comme un vulgaire premier tour. 4-1, ils ont lâché un match à Dallas. Le match qui pouvait laisser un doute, c'était le match 5. Est-ce que Dallas allait être capable de remettre une incertitude dans cette finale, même si jamais personne n'est revenu de 3-0, mais peu importe. S'ils gagnaient ce match, il y avait encore un doute et encore une chance que Dallas soit champion. Et bien, ils se sont fait éclater. C'est pour ça qu'on pose cette question, Steve.
Oui.
Oh, j'ai l'impression que c'est un enterrement, ce basket.
Non, après...
C'était pas enthousiasmant.
Pas enthousiasmant à 3-0, c'était déjà fini, puisqu'on connaît tous les stats, je crois, il y a eu plus de 150 cas de figure.
155,
ouais. Voilà, on connaissait déjà l'issue de la finale. Ce match 4, c'était plus un match à l'ego, l'histoire d'être en vacances et de pas s'être fait sweeper, parce que même si c'est déjà arrivé, c'est rare de prendre un sweep en finale NBA. Donc voilà, il y a une réaction d'orgueil, une réaction d'ego à domicile. Maintenant, ça c'était terminé. Ce qui est dommage, c'est qu'à la mi-temps, encore une fois, sur ce match 5, eh ben, tu sais que le match est plié parce qu'ils sont à moins 20, moins 21. Il n'y a même pas de suspense, il n'y a même pas de frémissement. Et c'est ça qui est dommage sur cette rencontre-là. Maintenant, Boston perd trois matchs quand même en play-off. c'est très peu. Donc on a beau dire oui, ils ont joué personne, oui, ils ont joué des équipes blessées. Bon, là, il faut que s'incliner cette équipe-là. C'est la logique des choses. Tu as été la meilleure équipe pendant 82 matchs de saison régulière. C'est peut-être logique que tu sois la meilleure quand tu as joué 100 matchs. Voilà, il y a la meilleure équipe de NBA à gagner, à triompher.
Oui, mais ça on peut le dire chaque année. Mais est-ce qu'ils sont vraiment, hors concours ?
Non, parce que.
Est-ce qu'ils sont déclassés, comme on dit, dans les courses de chevaux ?
Il y a des équipes qui ont terminé premier de la saison régulière qui ne sont pas championnes, Pierrot. Eux, ils ont assumé leur statut.
Non, mais quand
tu es
champion, bon, quoi qu'il en soit, tu es la meilleure équipe de la ligue. Mais est-ce que cette équipe-là, elle n'est pas largement au-dessus ? C'est ça la question.
Après,
avec Porzingis,
ils ont bénéficié.
Est-ce qu'ils ont eu de la chance, tout simplement ?
Je ne sais pas si c'est de la chance. Eux, en tout cas, ils ont eu ce facteur chance ou facteur préparation, vous l'appelez comme vous voulez, d'être très peu touchés sur les blessures, sur leurs joueurs phares. Porzingis est un cas à part, il a loupé la fin de saison. Mais même sans Porzingis, cette équipe avait l'ossature. C'est l'équipe de l'année dernière ou il y a deux ans qui a toujours été dans le dernier carré. Donc ils ont été, Tatum n'a pas été blessé, t'as pas eu de grosses blessures, et Brown aussi. Ils ont été économisés sur les séries play-off. Ils arrivent en finale NBA, ils sont frais comme des gardons, les superstars. Ce qui n'est pas le cas des Mavs où Lucas, t'as beau dire ce que tu veux, il est cramoisi, il a mal partout et il ne fera pas le TQO avec la Slovénie.
Tu penses ?
Oui.
Ils vont se qualifier quand même ?
Non.
Non,
vu comment il a parlé, Luca.
Mais dis pas qu'il n'y aura pas Luca à Paris cet été.
C'est Luca ou Yanis.
Luca ou Yanis, donc ce sera Yanis.
Oui, mais on préfère voir Luca, tu m'excuses quand même.
C'est toi qui le dis.
Pas
ça,
toi ?
Moi j'aime les deux.
Oui.
Non, franchement, j'ai pas de problème avec
les
deux.
Mais à un moment donné, il faut faire une impasse. Ce mec-là tire trop sur la corde, joue trop de ballons, est trop exposé. Là, son corps, il est détruit.
Alors, on va parler de Dallas tout à l'heure. Est-ce que on peut dire que Boston a bénéficié, entre guillemets, d'un peu de chance dans le scénario à l'ouest ? Parce que finalement, Dallas a battu Minnesota, qui avait battu Denver. Est-ce que finalement, Denver n'aurait pas été une opposition beaucoup plus costaud pour les Celtics ?
Mais ça, on ne le saura jamais. C'est des plans sur la comète.
Tu peux l'imaginer, du moins.
L'an dernier,
les Nuggets ont dominé la Ligue. Peut-être pas de la façon dont l'ont fait les Celtics cette saison, mais de manière quand même impressionnante.
Oui, ils ont été impressionnants, c'est vrai. Mais concrètement, comme tu le dis, Boston a fait une saison remarquable aussi. Donc... Denver n'est pas en finale, c'est un peu leur problème. Ils ont qu'à être meilleurs et gagner des matchs. Donc, tu peux dire ce que tu veux, tu sais très bien, et je l'assume que ce n'est pas mon équipe préférée, Boston, sauf que tu peux juste t'incliner en disant « Ok, ils ont peut-être eu une trajectoire plus facile, ok, ils ont peut-être été dans la conférence Est qui est peut-être plus facile, sauf qu'à la fin, quand ça compte, ils ont fait des matchs, ils ont joué en équipe, ils ont un 5, voire 6 majeurs quasiment injouables, et pour moi, on est parti sur une dynastie logiquement.
On est parti sur une dynastie,
logiquement, là. Parce qu'encore une fois,
on pouvait dire ça de Denver l'an dernier. Hein,
ouais, mais est-ce que à Denver, sur tous les postes, t'as des joueurs qui ont niveau au star?
Denver a perdu des joueurs importants.
Oui,
on est peut-être parti sur un feuilleton plus qu'une dynastie, non?
Mais est-ce que cette dynastie des Celtics, alors certes, elle n'est pas récompensée de bagues, mais est-ce qu'elle dure pas depuis 3-4 ans déjà?
Oui, bien sûr.
Ouais. Avec une finale il y a 2 ans.
Oui. Dernier carré, sur les 6 dernières années, je crois qu'il y a finale NBA et finale de conf quasi systématique.
Et en plus, tu construis sur ça, c'est-à-dire que tu te renforces par rapport à ça, tu as un coach qui est dans la continuité, même si ce n'est pas exactement le même coach, c'est un coach dans la continuité, c'est une équipe dans la continuité, et à chaque fois qu'il voit une petite défaillance, ils se permettent le luxe de dire « Ok, mais Marcus Smart, il était ici, je change. »
L'impétueux Jason Tatum m'avait déclaré « J'aurais 5 bagues avant mes 28 ans, il y a quelques années. »
Wemby a dit quasiment qu'il voulait gagner la titre la première année aussi. Donc,
pour dire la domination de cette équipe.
Mais il est champion NBA un an avant la première bague de LeBron.
Un an avant, ça compte quand même. Hein. Arnaud ?
Je ne pense pas qu'on puisse dire décalage ouest-est, parce qu'au final, il y a des derniers champions récents qui étaient à l'ouest. Denver l'année dernière, les Warriors l'année d'avant. Donc il y a quand même une forme d'alternance. C'est plus la rotation totale des champions. On a un champion nouveau toutes les saisons.
Ouais, mais tu peux quand même considérer que l'ouest est plus fort que l'est. Je veux dire,
sans
se tromper. Il y a des explications à chaque fois. Je suis d'accord. Mais il y a quand même une vraie réalité, c'est qu'à l'instant T.
Parce que tu as eu des stars laissées à l'est.
Et moins fort.
Parce que tu n'as pas eu Yanis, tu n'as pas eu Embiid.
Indiana qui leur a posé le plus de problèmes.
Arnaud, il a raison. Ce qui m'emmerde, en fait, bon, c'est toujours le cas dans le sport de haut niveau, mais encore plus NBA avec cette accumulation de matchs, c'est qu'en général, sur les playoffs NBA, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu tous les favoris être en forme et en bonne santé? Et ça m'emmerde de ne pas voir Boston affronter Philly avec Joel Embiid à 100%. Ça m'emmerde que les Bucks soient amputés de Lillard et soient amputés de Giannis Antetokounmpo, parce qu'on a envie de voir des vraies confrontations avec les gros joueurs. Et c'est ça qui est chiant, en fait.
Oui, mais finalement, est-ce que ce n'est pas à donner au crédit de Boston d'avoir suggéré ses stars, d'arriver en pleine forme et d'être là au moment important, en fait? C'est hyper important aussi.
Oui, oui, oui.
Et du coup, d'avoir joué des Pacers, équipe un peu surprise, en finale de conf, alors que ils avaient toutes les raisons, les Pacers, pour pas passer, qu'ils étaient quand même du côté du tableau de Philadelphie.
T'as raison, mais
finalement, c'est la meilleure opposition qu'ils ont eue. Dans ces
les Pacers, ouais, encore Haliburton joue pas les.
Scénario des matchs, ils sont moins régalés.
Ouais, sauf qu'ils passent moins.
Même les Cavs, il y a eu des blessés, tu sais.
4-1.
Non, 4-0.
4-0.
Oui, mais.
4-1, 4-1, Miami, 4-1.
Est-ce qu'ils ont pas plus dominé Dallas que Indiana, franchement? Moi, je trouve, dans les scénarios des matchs.
Il y a quand même le match 2 et le match 3 qui sont pas loin. Qui sont plutôt serrés, où Dallas met une balle dans le pied en tirant à 50%.
Je le rejoins quand même sur le match 1 et le match 3 ou 4, je sais plus, d'Indiana, tu te dis.
Ils ont un peu de chance. Ils sont à plus suite, je crois, deux minutes de la fin. Il est énervé.
Donc, tu te dis, finalement, effectivement, l'opposition était importante, sauf qu'ils ont su répondre dans les moments chauds. Ils ont été bons sur les fins de carton, comme ils le sont à chaque fois, Boston, et ça, c'est une grosse marque de champion. Et ils ont battu Indiana, finalement, même si, effectivement, ça a été plus serré.
Après, moi, j'aurais voulu voir une autre équipe en finale que les Mavs, qui sont rookies, cramés et qui découvrent ça. Avec,
est-ce que Minnesota, ça aurait été une opposition plus adaptée pour faire déjouer Boston?
Peut-être, parce que tu peux les impacter à l'intérieur avec Towns, avec Gobert, proposer d'autres choses.
Mais le jeu écarté en fer à cheval, je ne suis pas sûr que ça aurait été très bénéfique pour...
Mais Denver aurait peut-être posé plus de problèmes à Boston. Oui. Voilà, quoi. Mais maintenant c'était les Mavs. Il faut donner du crédit aussi aux Mavs. Ils ont fait le boulot aussi pour arriver jusque-là.
Jalen Brown, MVP des finales. C'est logique, Fred.
Évidemment. Tu voyais qui d'autre? Alors, Tatum fait un match fantastique sur le match de la victoire. C'est un match fantastique, il n'y a absolument rien à dire, sauf que jusque-là, je trouve qu'il a été moins impactant, moins décisif, moins clutch, avec un pourcentage de réussite en plus assez faible, et cette capacité qu'a Jalen Brown de défendre sur un Luka Doncic aussi. Franchement, il a fait un taf défensivement assez incroyable. Alors quand je dis que c'est le mérité, oui, les deux le méritaient, mais si on m'avait demandé mon vote, j'aurais dit Jalen Brown.
Ouais, si on t'avait demandé ton avis, on sait.
Mais je pense que j'aurais dit Jalen Brown avant les finales.
Oui, voilà, avant de voir les matchs. Arnaud, c'est un MVP logique ou c'est un peu, injuste?
Non, totalement logique, parce que mine de rien...
Jrue Holiday, on n'en parle pas non plus?
Moi, j'adore Jrue Holiday, mais c'est vrai que c'est un peu moins flashy, entre guillemets.
Il est en vacances, là, maintenant.
Et pas
Pierrot. Putain, c'est pas ma blague.
Il est en vacances, Jrue, oui, bien sûr.
Est-ce qu'il attend un texto à quelqu'un?
Pas du tout.
À Jason Tatou.
Quelqu'un m'envoie un texto pour me donner des arguments pour contrer Fred.
Ah, bah, je suis chaud.
Quelqu'un t'envoie un texto.
Tu te rends compte qu'on arrive à recevoir des textos en direct alors qu'on est un podcast? Ça, c'est la magie d'RMC.
C'est fou, ça. Alors que t'as un casque qui peut
parce
parler
qu'on a une nouvelle technologie. On a une nouvelle technologie qui nous permet de faire ça. Alors, je peux pas vous expliquer exactement quoi parce que ça peut révolutionner le monde. D'accord? C'est un truc avec le temps, la compression du temps, la relativité, Einstein.
L'intelligence artificielle aussi?
Non. C'est que la théorie de la relativité d'Einstein.
Interstellar.
Je peux pas vous expliquer. On est en train de tester une technologie où on peut nous envoyer des textos en direct quand on écoute le podcast en différé. Mais ça, c'est incroyable.
Donc, c'est Hermione Granger dans Harry Potter.
Ça va révolutionner la radio. Donc, Hermione Granger, exactement. C'est Hermione qui m'envoie les textos.
Donc, il y a un mec qui va écouter le podcast au mois d'août. Il se dit, putain, Fierro, il reçoit encore des textos en direct.
Exactement. Il active son retourneur de temps. Il revient au mois de juin et bam, il m'envoie des textos. Alors, le truc, c'est qu'il faut avoir mon numéro de téléphone. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Il n'a pas beaucoup.
On revient au débat MVP des finales.
Jalen Brown, tout à fait logique, parce qu'il a été le plus constant. Et tu as quand même un paramètre au basket qui est très important, c'est l'adresse, parce que c'est ce qui te permet de mettre des paniers. Et là, Jalen Brown, il est à 50% sur ses finales, tandis que Jason Tatum s'est déchiré quand même à quelques reprises. Donc, ça me paraît totalement logique.
La clutchitude aussi, n'oublie pas la clutchitude.
Jalen Brown le mérite parce que déjà, c'est lui qui lance cette finale sur le match 1. Parce que le match 1, mine de rien, il est très important pour la confiance d'une équipe et il est énorme, monumental. Sur le match 1. Ensuite, Fred l'a dit, il y a les deux côtés du terrain. Si Lucas, sur les chiffres, sont toujours énormes et les pourcentages sont cata, que défensivement Lucas a été ciblé, c'est parce que Jalen Brown l'a attaqué. Que Lucas, s'il est fatigué, c'est parce qu'il doit défendre sur Jalen Brown et que bon, bah, parfois il a plus de canne, il défend pas. Jalen Brown, des deux côtés du terrain, il a impacté cette finale. Et c'est ça aussi.
Après,
il y a 11, c'est 7-4, hein, je crois. 7 voix pour Jalen Brown, 4 pour Jason Tatum.
Après, Jacques Monclar, qui m'envoie des textos donc en différé grâce à cette nouvelle technologie, me dit meilleur scoreur, meilleur passeur et meilleur rebondeur de l'équipe. Jason Tatum, c'est le premier, c'est la première fois de l'histoire qu'un joueur est premier dans ces catégories-là sans être MVP des finales.
Leur meilleur scoreur, je crois que c'est Brown, 20,8, et Tatum, 20, pour être précis. En moyenne. Ouais.
Non, c'est non. Impossible.
Alors, Arnaud, voilà, donc, je vais t'expliquer.
Alors, c'est play-off.
Parce que tu es sur le site Basketball Référence, oui. Qui est un site français. Donc, pour l'instant, il y a 3-1. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Et le match 5 n'est pas comptabilisé.
Ce que j'allais dire, je crois qu'il a 24 points.
Oui. Je suis revenu en arrière pour les stats aussi. J'ai pris les stats d'avant.
Pour ceux qui nous écoutent, au mois d'août, Pierrot, oui. Victor Wembanyama a fait des jeux exceptionnels.
Et bravo à lui, surtout.
Bravo à lui.
Du coup, tu es suspendu 2 minutes. Tu n'as pas le droit de parler pendant 2 minutes, Arnaud.
Donc, tu enlèves ta
carton jaune.
Donc, qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Fred, sur les stats? Premier dans les catégories de stats, points, passes et rebonds, sans être MVP des finales.
Dans ces cas-là, on a pu mettre Lucas MVP parce que c'est la première fois de l'histoire où un mec est meilleur.
Sauf qu'il n'est pas champion.
Bah alors.
Donc il n'a pas fait gagner les matchs.
Mais Jerry West
a été champion alors qu'il a perdu.
C'est le seul de l'histoire. On en parlera tout à l'heure.
Et c'est le premier en plus. Donc tu veux que je contre ces arguments?
Bah oui.
C'est super simple. Je pensais qu'on était dans un podcast basket qui ne se référait pas uniquement aux chiffres et qui comprenait un petit peu le jeu. Effectivement, un joueur de basket, c'est des deux côtés du terrain. On a un joueur qui a été clutch, qui a mis les points quand c'était important et quand ça comptait, Jaylen Brown. On a un joueur de basket qui a été capable non seulement de faire ça, d'être clutch, d'être dans l'attitude, etc., avec des pourcentages bien plus élevés que Jason Tatum, et en plus de défendre sur Luka Doncic, de faire baisser ses pourcentages, ouais, et d'être
c'est
très
vrai.
Performant.
C'est incontestable, mais
C'est assez simple.
Le leader.
Comme nous ne sommes pas au café du coin, on est en train de parler de basket. Il faut parler des deux côtés. Et quand on parle des deux côtés, Jaylen Brown a été meilleur.
Ce qui est incontestable, au moins sur ce match 5, je le maintiens sur toutes les finales et sur toute la saison, c'est que le leader de cette équipe, c'est Tatum. C'est-à-dire que c'est lui, à un moment, qui a écœuré les Mavs. Il a fait un début de match scoring 0-0. Il a laissé les autres. Au moment où il y avait un petit espoir de revenir, bam, allez, 2 points plus la faute. Allez, je vous mets
des passes. Pas 8-9
passes à la mi-temps.
Je vous mets... Eh oui, mais je t'ai pas dit 3 points.
Oui, c'est pour ça que je dis.
Je vous mets des paniers impossibles à mettre. Je défends comme un chien. Je fais les interceptions qui vont bien. Je suis désolé, il a écœuré... Non, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Je dis c'est le leader de cette équipe. Incontestablement, c'est le leader.
Tu veux dire que c'est le leader, mais que le MVP des finales de conférence, c'est Jaylen Brown, et le MVP des finales tout court, c'est Jaylen Brown. Mais je suis d'accord avec
toi. Moi, je trouve qu'il y a débat sur le MVP des finales.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas débat
malgré
du tout.
Non,
c'est vraiment son adresse qui l'a plombé, parce qu'il est encore 1 sur 7.
Non, mais il fait deux très gros matchs. Deux matchs à plus de 30 points, ok. Les deux matchs-là, il a été très performant.
La régularité de Jaylen Brown est récompensée sur
évidemment.
Ce match aussi. Peut-être qu'il est monté moins haut en termes de scoring, Pierrot, mais il n'est pas descendu, comme Tatum est descendu.
Je te pose juste une question, Fred. Quel numéro retireront-ils en premier, sachant que c'est la franchise la plus titrée de la NBA? En cela, c'est peut-être la plus grande franchise
aucun
de la
deux.
NBA. Celui de Tatum ou celui de Jaylen Brown? Si la question doit se poser un jour.
Je pense les deux en même temps, parce qu'ils sont tellement aussi indissociables, en fait.
Je suis d'accord avec ça.
Moi, je pense pas.
Aucun des deux, peut-être.
Peut-être aucun des deux, mais moi, je pense que Tatum a largement de l'avance. Ah, il n'y a plus de réponse.
Mais peut-être. Non, mais honnêtement, c'était pas la question. Donc je n'en sais rien.
Qui a le meilleur contrat aujourd'hui? C'est Jaylen Brown.
Jaylen Brown, oui.
Oui, mais ça, est-ce
que tu as le droit de dire bravo quand même à Jaylen Brown quand tu as le plus
bien
gros
sûr.
Contrat de l'histoire
fantastique.
Et de faire la saison qui fait et qui se termine champion NBA avec
MVP un joueur
finale,
fantastique. Hein.
Il faut quand même dire bravo parce que tu as un paquet de mecs qui ont signé le pactole et qui se sont écroulés.
Tu sais quoi, moi je trouve de toute façon que ces deux joueurs-là sont sous-cotés dans la hype. Hein. C'est-à-dire qu'on parle pas de Jason Tatum en premier quand on parle NBA, on parle pas de Jaylen Brown en premier quand on parle de Boston.
Oui, mais ça va
et
pas
ces
tarder,
deux mecs-là,
quand
méritent plus de reconnaissance.
Quand LeBron va arrêter, quand Curry va arrêter, quand Durant va arrêter, on va parler de qui? On va parler de Jason Tatum, on va parler de Jaylen Brown, on va parler de...
Bah, s'il est performant, Jason Tatum, on verra d'abord.
Bon, t'as pas réagi quand j'ai parlé de la plus grande franchise NBA, 18 titres désormais, 17 pour les Lakers.
Ah mais en nombre de titres, on peut pas juger, bien sûr, évidemment, 18-17, c'est toi qui as le plus grand nombre de victoires.
Voilà, c'est tout.
Mais c'est pas la meilleure franchise.
C'est comptable, en fait.
En fait, si tu considères qu'ils ont fait 7 ou 8 titres de suite en 1960, je suis désolé, moi, j'étais pas né. Même moi, j'étais pas né.
Après, c'est vrai que les Lakers n'ont jamais fait des titres de suite dans les années 50. C'était même pas à Los Angeles, monsieur.
Alors, écoute, tu vois, ça tombe bien.
Il y en a 5 qui sont avec les Lakers de Minneapolis.
Depuis 86, combien de titres pour Boston? 2. Depuis 87, combien de titres pour Los Angeles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Mais alors,
donc le basket moderne, commence après 1986. Russell n'a jamais existé.
Alors, Bill Russell jouait comme, pour paraphraser notre ami Stephen, contre des enfants. Ah. Donc à partir de là, oui, quand le basket moderne est arrivé, c'est-à-dire que quand Michael Jordan est arrivé, en gros, C'est les Lakers.
Ah, Bill Russell, il jouait contre Bouddha à Mimimati. Après, Boston, c'est une franchise d'hiver et les Lakers, c'est une franchise d'été. Quoi.
C'est un peu ça, ouais.
Quand tu mets le maillot des Lakers, tu vois, c'est t'es à Venice Beach. Bah, quand tu mets le maillot, les couleurs, tu vois, vert, quoi, c'est automne. Là, tu vois, quand il pleut, ouais. Tu mets le truc des Boston.
C'est un peu le débat Djokovic-Federer qu'on est en train de faire en fin de compte.
Alors, Djokovic, ça serait qui? Et Federer, ça serait
Djokovic, bah, Djokovic, c'est Boston.
Federer, c'est les Lakers. Et Nadal, c'est les Bulls.
Ouais, pas mal.
Les Warriors, Steph Curry.
Non, il n'y a pas de troisième là. Parce que l'écart est tellement important, c'est 7 après les Warriors. 7 ouais, ouais. Hein, titres. Hein. Alors que Nadal, Federer.
Dans ce cas-là, Federer, il n'est pas dans la conversation.
Et Djoko,
gros.
Ça.
Il faut faire Djoko-Nadal, parce que Federer, il a que.
Non, parce qu'il y a le côté Federer qui sera à
l'amour.
Tout jamais le meilleur joueur de tennis de l'histoire.
Les stats.
En termes techniques. En termes
de classe, de beauté.
De tout, en fait. Sur tous les critères, beaucoup de gens mettent Federer numéro 1. Les Lakers, c'est un peu pareil.
C'est-à-dire oui. Que c'est le showtime des Lakers, c'est un
c'est
peu
le showtime, derrière. C'est la flamboyance, c'est beaucoup, beaucoup de joueurs très esthétiques. Peut-être plus qu'à Boston, quand même.
Même si oui. Tatoum est esthétique.
Et Tatoum est extraordinairement esthétique et c'est ce qui fout la rage.
Extraordinairement. Essaye de te calmer un petit peu quand tu parles aussi. N'importe quoi.
C'est ce qui fout la haine à Fred.
Mais non,
c'est
pas du tout.
C'est un beau joueur.
C'est que Tatoum a tout le package pour être un joueur des Lakers.
Il est smooth.
Mais c'est un joueur des Celtics. Et ça, tu n'y peux rien, Fred.
Tu sais quoi? Je viens d'y réfléchir. Je suis un peu d'accord avec
il
toi.
Est smooth,
il est tellement bien.
Tu vois, alors que LeBron, c'est plus un joueur de Boston. Un bon bourrin qui n'est pas très joli à avoir joué.
Il a des bonnes mains, mais il ne nous fait pas rêver par ses mains.
Besogneux, un bon voilà. Besogneux.
Après, Pierre.
Critiquez pas LeBron quand même.
Faut dire un mot sur les Celtics, sur la reconstruction, en fait. Et Brad Stevens et tout le front office, parce qu'en 2013.
Danny Ainge.
Et Danny Ainge au
et
début.
Félicitations aux Bucks aussi. D'avoir laissé Jrue libre et
qu'il soit allé à... Il y a eu un trade.
Ça, on en a parlé la semaine dernière.
Tu l'as tradé à Portland et tu l'as récupéré.
Magnifique.
En fait. Et que tu l'as tradé à Portland.
Bah, continue sur ce que tu voulais dire, Arnaud.
C'est qu'ils sont quand même partis d'une page presque blanche en se disant « On casse notre Big Three, Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. On récupère énormément de choix de draft. Merci les Brooklyn Nets. » Et en l'espace de 10 ans... là, il y a l'avènement évidemment avec ce titre aujourd'hui, mais la reconstruction, cette équipe, elle est déjà compétitive depuis 3-4 saisons, c'est ce qu'on disait avec les finales il y a 2 ans. Donc en modèle de reconstruction et de patience, c'est quand même pas mal.
Et quand tu parles de patience, faut se rappeler que même dans cette émission-là, il y a quelques années, on avait fait le débat, faut-il péter le duo Jalen Brown, Jason Tatum. On s'était posé cette question sur un podcast Basket Time, et au final, ils ont été patients. Brad Stevens a décidé de donner cette chance-là, de sacrifier des mecs compensés des tauliers des Celtics, Marcus Smart, Robert Williams, Malcolm Brogdon, qui étaient des bons joueurs de basket, ils ont fait des choix forts aussi.
Pour le coup, c'est une vraie expertise. Pour le coup, les GM ont une influence sur les résultats en NBA. Je pense comme dans il n'y a pas un sport où le GM a une importance de ce niveau-là.
À 80 000 par mois, j'espère qu'ils sont compétents, les mecs.
Vous avez...
Non, mais en termes de stratégie, c'est vrai.
Vous avez quand même réussi à tirer Kyrie, même si la greffe n'a pas pris et le move de cet été.
Le directeur sportif, il est ultra important, mais il n'y a pas autant de moves en termes de proportion de joueurs.
Parce que le problème, c'est qu'en NBA, Pierrot, quand tu fais un move, ça peut impacter ta franchise sur 4, 5, 6, 7, 8 ans. Au foot, non, il n'y a pas d'impact comme ça aussi.
Tu peux rattraper le coup.
Tous les moves que tu fais avec la draft, les transferts, ça impacte une franchise.
Et tu peux reconstruire et déconstruire en quelques jours, en fait.
Oui, c'est-à-dire en acceptant parfois de retutoyer les bâtons.
En foot ou en rugby, tu peux pas faire ça. T'as besoin de 2-3 saisons pour complètement changer une équipe. Tu peux pas le faire en un été avec des free agents, des échanges.
Il y a il y a la draft, tout est fait aussi pour que la NBA.
Tout est fait comme pour ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ont une importance et qu'il faut la souligner de temps en temps.
Et en NBA, il faut accepter de tutoyer les bas-fonds à un moment de la ligue si tu veux partir de zéro.
Fred, j'ai donné une bonne nouvelle pour finir sur les Celtics. Je pense que cette rivalité. Non, là, c'est moi, là, tout seul. Cette rivalité, c'est ce qui va faire que les Lakers seront champions bientôt. Parce que Magic Johnson a tweeté dès la fin du match, j'ai la haine qu'ils aient un titre de plus que nous. Et ça, forcément, ça compte dans l'histoire d'une franchise et dans la façon de travailler. Je pense que cette haine, ils vont la retranscrire sur le parquet ces prochaines saisons pour aller chercher le 18.
Ouais, on part de loin quand même.
Avec qui déjà ?
Avec LeBron à 47 ans.
Mais on va voir ça. Justement, on vient de le dire, ils peuvent changer des choses. Si c'est pas l'année prochaine, c'est peut-être
Bronny James, baby.
Avec Bronny. On va passer au Mavericks de Stephen Brun.
If Luka's ever going to be a winner, he is going to have to use this what's happened in this finals as a learning experience.
Doncic step back three. is good.
We know this left wing step back. You know it's coming. That is his shot.
Doncic trying to create space. Beautiful pass, but Irving has to bring it out. Now throws it up, and Lockley with the slam.
His defensive performance is unacceptable.
Doncic goes right at him. Step back, jumper's got it.
From the beginning of game one, the Dallas Mavericks were simply outmatched.
Kyrie Irving, oh, a circus shot from Irving as he goes across the lane.
There's a lot of young players on our side who have never done this before. This experience that we're going through is a healthy thing. It's not a bad thing.
DeLuca late in the shot clock in desperation. He puts it up!
Alors, que manque-t-il à Dallas pour être champion ? T'as dit tout à l'heure, Steve, qu'être là, c'était déjà bien, ce qui est probablement une réalité quand on se remet en début de saison. Maintenant, ils étaient quand même en finale, et après leur fantastique play-off à l'Ouest, on se disait quand même que c'était possible. Donc, qu'est-ce qui manque à ces Mavericks pour être champion, d'après toi ?
Bah, un peu de temps, parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est une équipe qui est neuve, qui a six mois de vécu commun, avec les arrivées de Gafford et PJ Washington qui sont quand même récents dans l'équipe, que tu as un rookie qui a fait une saison merveilleuse et qui va faire que progresser Derek Lively, que c'est la première saison complète du binôme Luka Doncic Kyrie Irving, donc au niveau contractuel tous les mecs sont encore là, même si j'aimerais vraiment voir partir, notamment Tim Hardaway Jr. à 17 millions et qui reste un an, mais l'ossature est là, les mecs sont là jusqu'en 2025-2026 minimum, Gafford et PJ Washington notamment. Donc voilà, Luka a appris, Luka doit changer des choses, Luka Doncic doit changer des choses, notamment sur je ne veux pas dire hygiène de vie, mais sur la façon de gérer son corps, parce qu'il arrive éreinté sur les fins de saison, c'est systématique, et même sur les fins de tournoi avec la Slovénie, il est cramoisi, il doit faire des efforts défensifs, on l'a vu sur les finales NBA qui est un miroir hein, grossissant. Hein. La saison régulière, parfois, tu peux passer entre les mailles avec tous ces matchs-là. La finale NBA, on ne regarde que toi, parce qu'il n'y a que deux équipes. Donc, on a vu les failles défensives de Luka Doncic qui a été ciblé par Boston et qu'il est capable de défendre parce qu'il l'a montré sur certains matchs, notamment le match 4 quand il y a le blowout. Mais là, tu es plus à l'ego et tu fais des efforts défensifs. Mais sur la globalité.
Parce qu'il venait de se faire critiquer aussi par tout le monde. C'était un peu plus simple d'avoir
les États-Unis. Mais sur la globalité de la rencontre, ce n'est pas suffisant ce qu'il fait en défense. Maintenant, il a un problème physique. Je pense qu'il est cramé, il a mal partout, mais ça aussi ça part de sa gestion.
C'est pas plus de la fatigue que des problèmes physiques.
Non, je pense qu'il a des vrais problèmes au genou, il a des vrais problèmes partout à la cheville, au genou, il a des petits bobos, mais ça reste une finale NBA. On a vu Porzingis jouer le match 5 en boitant, voilà, une finale NBA tu joues, mais il y a des choses à corriger sur sa préparation de saison, sur ses intersaisons, sur son attitude aussi, même si pour moi je ne veux pas que Luka Doncic change et devienne un mouton et dit amen à tout. Parce que ce qui fait que c'est Luka Doncic et peut-être un des meilleurs joueurs NBA, c'est aussi des attitudes comme ça, de petits cons, des attitudes où il a besoin de se rebeller contre des gens parce que sinon
ça sent le vécu.
Oui, non, mais alors il doit savoir choisir ses combats, les arbitres, tu gagneras jamais. C'est le combat que tu as perdu, quoi qu'il arrive, avant de démarrer la rencontre.
Mais c'est pas une de ces formes de se transcender, justement, le fait de parler avec les arbitres. Est-ce que ça... Alors, effectivement, c'est énergivore. Effectivement, ça peut être énergivore. Mais est-ce que c'est pas sa façon de se motiver, tout simplement ? De parler aux arbitres, de trouver cette motivation de se battre contre eux.
Sur des petits intervalles, Fred. Mais non, pas sur 48 minutes.
Je suis d'accord, mais il est encore jeune. Et donc, il doit apprendre par rapport à ça. Et il doit travailler
ça. Ça fait pas mal de temps qu'on parle de ça. J'ai pas vu d'évolution là-dessus.
Donc, c'est la première fois que tu fais des finales.
Oui. Mais à un moment donné, c'est pénible pour lui, c'est pénible pour les arbitres qui, au final, on en marre de lui et les appâts, et c'est pénible.
Il faut que tu m'expliques un truc, Steve, un truc de non-spécialiste. On est dans un podcast basket, donc on peut rentrer dans du détail technique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de basket. Il faut que tu m'expliques son move où il vient dans la faute. C'est-à-dire qu'il shoot des deux points en cherchant la faute. J'ai lu, moi, des réactions de critiques. Disant, je croyais que c'était interdit désormais de faire ça en NBA. Est-ce que tu vois ce dont je parle?
Mais en fait, à un moment donné, il y a eu de l'abus.
Fin de tir pour venir dans la faute, mettre un deux points avec la faute.
À un moment donné, il y a eu de l'abus. C'était notamment James Harden qui faisait énormément ça. Fin de tir, le défenseur se lève mais reste sur son cylindre et c'est l'attaquant qui avance vers le défenseur pour créer un contact.
Qui provoque un contact et qui donne faute.
Et à un moment donné,
il fait un peu ça, Luka.
Un peu.
Il fait très bien.
Oui. Et à un moment donné, les arbitres avaient dit stop. À un moment donné, l'attaquant ne peut plus sortir de son axe de tir.
Bah parce que peut-être t'as pris mal à la superstar et que le travail d'appui est récompensé aussi, parce que tout ce travail de feinte et de footwork, ça fait partie du bagage technique, et que le défenseur en général ne doit pas quitter ses appuis. Et mais les arbitres qui estiment qu'à partir du moment où le défenseur quitte ses appuis, c'est une erreur défensive et qu'il est plus maître de son corps, et que bah, l'attaquant, s'il a envie de faire un extra step vers l'avant pour aller sur le corps du défenseur, l'attaquant doit être récompensé.
Si tu n'as pas d'impulsion, la faute ne peut pas être sifflée, mais si tu as un pied qui décolle ou deux pieds qui décollent, il y a faute.
Si le défenseur ne mord pas à la feinte et qu'il reste comme ça, pied au sol, je pense que le défenseur n'est jamais sanctionné. Mais à partir du moment où tu n'as plus de contact au sol et donc tu as quitté tes appuis, et c'est une erreur défensive de quitter ses appuis,
c'est impossible à défendre, on est d'accord. Il le fait tellement bien.
Bah, si tu ne sautes pas, en fait, accepte d'être battu sur un open under ou un truc comme ça.
Non, mais tu sais pourquoi ça s'était arrêté d'être sifflé, parce que justement, James Harden le faisait tellement à outrance qu'ils ont préféré arrêter. Sauf qu'on nous apprend tout le temps au basket et ça, je pense que tout le temps, justement, pas
plonger dans les fautes, oui.
Donc c'est-à-dire de ne pas sauter. Et chaque fois qu'on sautait, alors à mon époque, je parle de ça il y a quelques années maintenant, on disait t'as sauté, t'as perdu en fait. Mm-hmm. Donc finalement, pour moi, il y a faute. T'es en l'air, c'est de ta faute, t'as mordu à la feinte, il va chercher et c'est assez logique pour moi.
Je pense que pour comprendre aujourd'hui l'état de fatigue qu'on peut même juger extrême de la part de Luka Doncic, il faut regarder son programme depuis 2021 et ce fameux compte de Nicola Batum. Donc il dispute la saison NBA en sortie de Covid, les JO à Tokyo. Dans la foulée, il fait saison 21-22, finale de conférence pour les Mavs. Il dispute l'Euro 2022 en Allemagne avec la Slovénie. Rebelote saison NBA derrière. Il est là pour la Coupe du Monde aux Philippines et au Japon pour la Slovénie en septembre 2023. Et là, saison NBA, derrière, ils vont jusqu'en finale et les JO de Paris. Ce qui est presque regrettable quelque part, de le voir plus faire l'impasse sur les JO de Paris, alors que tu pouvais te dire, bah peut-être que la Coupe du Monde ou l'Euro, t'aurais pu dire non. Mais son attachement aussi à la Slovénie...
Peut-être qu'il sera là, non ?
Ouais, je sais pas.
Impossible.
La TQO, ça veut dire TQO. Ouais,
après, il faudrait qu'il fasse le TQO sans lui, qu'il se qualifie et voilà.
C'est pas possible, ça.
Mike Toby, c'est
pas possible. Et puis en plus, tu te rends compte tout ce qui vient d'enchaîner, et surtout, on parle d'un mec qui a le ballon 90% du temps, c'est-à-dire que tout passe par lui, que ça soit en sélection ou en club. Il est ciblé, il prend les tampons, il prend les taquets. C'est dur.
C'est épuisant.
Et c'est là où on peut comprendre, parfois on a tapé sur nos joueurs français, qu'il y ait un ou deux mecs après, qui prennent un été off en fait.
Ce qu'on peut se demander aussi pour essayer de faire progresser les Mavs, entre guillemets, c'est est-ce que ce phénomène est dû au jeu de Luka Doncic ou à la façon dont ils ont construit leur équipe ?
C'est au fait de Luka Doncic, enfin pour moi.
Ah ouais, mais du coup c'est insoluble.
C'est le talent du joueur qui demande ça.
Du coup, c'est un peu désespérant. Hein.
Honnêtement, c'est un peu compliqué, mais on le dit depuis qu'on fait le podcast et qu'il y a Luka Doncic en NBA. Jouer à côté de Luka Doncic, c'est hyper difficile. Il faut trouver la solution pour jouer à côté de lui. On pensait pendant la saison que
c'est difficile, mais parfois t'es quand même content d'être avec lui.
Non, mais t'es hyper content, sauf qu'il faut que tu sois dans le corner et attendre, en gros. En gros, oui. Pour résumer,
il faut mettre dedans.
Et il faut mettre dedans. Et si tu ne mets pas dedans, c'est compliqué. Donc, on pensait qu'avec Kyrie Irving, ils avaient trouvé le bon équilibre. Et là, on a vu malheureusement que Kyrie n'a pas été bon pour les finales. Dans l'absolu, Kyrie, c'est parfait pour lui.
Alors, c'est clair que dans la question que manque-t-il à Dallas pour être champion, bon, c'est clair qu'il manque un Kyrie Irving de gala.
Oui, même pas de gala, à son niveau juste.
À son niveau, oui.
À son niveau.
Juste à son niveau.
Peut-être de gala quand même. Oui, pour battre une équipe comme Boston.
Sur certains matchs, je suis d'accord. Sauf qu'il est tellement en deçà de son niveau dans ce qu'on a vu là, que déjà à son niveau, il pourrait les embêter au moins.
Parce que c'était vraiment une des clés qu'on avait identifiées avant la série.
Kyrie a les clés.
Kyrie, voilà, exactement. Et là, il a été très décevant.
Il fait un énorme match, mais dans le blowout du match 4 au domicile pour l'ego et pour la fierté. Mais après, il passe au travers. Les pourcentages sont catastrophiques pour Kyrie. Et même globalement, le pourcentage à 3 points de Luka, de Kyrie, de PJ Washington, c'est en dessous des 30%.
Josh Greenkit est bon.
Après, il y a quelque chose quand même qui est intéressant pour l'avenir de Dallas, c'est que le secteur intérieur, là, ça y est, ils sont blindés quand même. Ils sont bons, les deux.
Gafford Lavely, oui. Lavely, qui est un gamin qui est plein d'avenir.
Même si ce n'est pas des mecs qui vont aller les
Mais est-ce que ça manque pas, Stephen, d'un mec qui a des moves au poste, qui puisse à un moment tu lui donnes le ballon,
c'est pas le jeu.
Je te demande.
Il n'a pas le jeu. C'est tout s'il en manque.
Avec Lucas, tu ne peux pas avoir un mec qui donne le ballon poste bas et qui fait des moves. Parce que Lucas est un joueur de pick and roll, donc il faut des mecs qui font du pick and dive et qui prennent des alley-oops, des finisseurs dans les bonnes fenêtres de passe. Parce que Lucas, monter la balle, donner le ballon intérieur et attendre que le mec il joue. c'est pas tu prives tu t'enlèves les qualités de Luka Doncic en fait si tu fais ça si t'es un big man qui joue
mais d'un autre côté je me dis ça permet de te reposer de dire t'es pas là à jouer toutes les positions tu dis tu vas donner allez le big man je te donne un peu la balle
jamais c'est pas possible ça je te dis c'est pour ça que pour moi la comparaison de avec James Harden elle est intéressante là parce que où est-ce qu'il est meilleur James Harden quand il joue le pick and roll Luka Doncic c'est la même chose après, tu peux, que l'empêche d'aller à l'intérieur en fait
tu peux trouver un poste 4 un peu meilleur que Maxi Kleber qui reste un an de contrat l'allemand peut-être que le poste 4 d'un niveau supérieur peut faire passer parce que mine de rien le banc Josh Green est un bon joueur et il va progresser. Dante Exum, il fait une première année, un retour en NBA magnifique. L'équipe, elle est très correcte. Hein, elle est très correcte.
Aaron Gordon, c'est un basket time spécial.
Aaron Gordon, dans le jeu sans ballon avec Lucas, ça peut être bien.
Ah, ça peut être sympa.
18e titre des Celtics. Et pourtant, nous allons parler des Lakers dans la partie historique.
Lakers trying to pressure the inbounds pass. 10 seconds now showing in the clock. The Busher shoots. Hit! With 3 seconds to go! 2 seconds! 1 second! West throws it up! He makes it! West threw it up and makes it!
Jerry told me that his biggest challenge as a player was not the fear of failure, but the fear of success.
Jerry West made it from the other side of the midcourt stripe!
In every facet of the game, West came up big when it mattered most.
His nickname was Mr. Clutch.
West in the corner as West goes up.
You know, competitive people, the word dog comes up a lot. That guy's a dog. That guy, well, I was a wolf. I used to eat dogs.
Hey, t'as incroyable cette phrase de Jerry West. Là. C'est souvent ils disent ah vous êtes des dogs, vous êtes des chiens. Et moi j'étais un loup, je mangeais les chiens. Jerry West.
Donc la légende Jerry West nous a quitté à 86 ans. Jerry West c'est le logo de la NBA. Alors, on va le répéter encore parce que c'est vrai que sa notoriété, je pense, sort pas trop des États-Unis. Je pense que en France. Les jeunes générations doivent apprendre qui est Jerry West, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. 14 saisons avec les Lakers, Mr. Clutch. Voilà un beau surnom quand même.
C'est beau.
Voilà, il y en a beaucoup des surnoms.
C'est comme ça qu'on t'appelle nous d'ailleurs.
Celui-là, on aimerait bien l'avoir.
Mr. Clutch.
Mr. Clutch, c'est magnifique.
Et c'est pas mal aussi.
Et champion en 1972. Arnaud, dans le détail, qu'est-ce qu'il faut savoir de Jerry West ?
Donc, il a sévi dans les années 60 et 70 sous une seule et même bannière, les Lakers de Los Angeles, visage de la franchise, qui vient, au moment où il drafte Jerry West, de déménager de Minneapolis à Los Angeles en Californie. Champion en 72, tu l'as dit, 8 finales perdues, 6 contre les Celtics de Bill Russell, 2 contre les Knicks avec un certain Phil Jackson, je crois, en face. MVP des finales 69 en ayant perdu, et c'est ça qui est fort, c'est la première fois dans l'histoire que le MVP d'une équipe, une équipe qui a perdu a son MVP dans ses rangs. Ses stats en carrière, 27 points, 6 rebonds, 7 passes. Il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire des Lakers, c'est Kobe Bryant qui l'a dit lui-même. Il sera aussi un grand general manager puisqu'il sera aux commandes dès 1982 des Lakers avec 6 bagues ramenées entre le Showtime avec Magic, Pat Riley, le three-peat du duo Kobe Bryant Shaquille O'Neal. Son numéro 44 est évidemment retiré par les Lakers. Il a inventé cette notion de combo guard, c'est-à-dire cet arrière meneur polyvalent aussi bien créateur que scoreur car sa qualité première était quand même de scorer. Il a fait des saisons à plus de 30 points par match et il est aussi le logo de la NBA. En 69, la NBA veut se doter d'un nouveau logo, ils veulent s'inspirer notamment du baseball. Il cherche alors une silhouette. C'est Alan Siegel, le graphiste, qui adore Jerry West. Il s'inspire d'un cliché voyant Jerry West ballon en main en train de dribbler. Mais il y a un côté tabou ou de gêne puisque Jerry West lui-même était inconfortable avec cette idée d'être le logo puisqu'il estimait qu'un logo devait représenter tout simplement quelque chose de plus grand que lui. Car Jerry West, c'est aussi une modestie et une classe reconnue de tous.
Mais on peut dire que c'est le cas finalement puisque ce logo, il existe en tant que logo maintenant.
Exactement. Il existe de lui-même.
Tu crois que les gamins qui mettent des chaussettes, ils savent que c'est Jerry West ?
Je pense pas. Mais en écoutant Basket Time, ils l'apprennent. Et un jour, en plus, vous aurez mon numéro de téléphone.
Et tu pourras
m'envoyer des textos en écoutant.
Imagine-toi sur un message au mois d'août. Excuse-moi, Pierrot, là, j'écoute Basket Time.
Je savais pas que c'était Jerry West, le logo. Alors, ça, c'est pour la présentation de Jerry West. Est-ce qu'il y a d'autres Jerry West dans l'histoire ? C'est-à-dire des gars qui ont perdu une finale et qui auraient mérité toutefois d'avoir ce titre honorifique de MVP des finales, Fred.
Mais moi j'ai choisi un autre Lakers, Elgin Baylor, qui a joué avec Jerry West d'ailleurs. Il a été drafté en première position en 1958. En 1958,
ça remonte,
ça remonte pas, un petit peu.
Ça compte pas.
Ouais, ça compte peu, mais c'est intéressant quand même. Donc c'est quand même l'homme.
Mais dans les stats, ça compte dans les titres.
Non, mais justement, c'est pour vous montrer. Vous avez vu comme quoi je vous ai fait réfléchir par rapport à ça. Donc c'est quand même l'homme qui a joué 8 finales et qui les a perdues toutes les 8, hein, quand même. Donc juste pour se rappeler un petit peu. Donc ce garçon était joueur des Lakers, mais manque de peau, il était aussi à l'armée. Et donc, ça veut dire qu'il ne pouvait pas s'entraîner avec son équipe pendant cette année 1961-1962. Il allait à l'armée à Washington, il revenait juste pour jouer les matchs, il changeait et il jouait les matchs aux Lakers. En gros, il a fait que 48 matchs cette saison parce que justement, il ne pouvait pas être là. Il était à mi-temps, j'ai envie de dire. Et malgré ça, le gars a tourné à quasiment 40 points, 17 rebonds sur cette saison. Donc, une saison plutôt
points,
pas mal.
17 rebonds.
Sur la saison. Mais tu sais, il y avait des Will Chamberlain qui étaient à 50. Mmh. Donc, finalement, il n'est même pas MVP de la saison. Et il aurait mérité d'être MVP, sauf que le titre de MVP il a été attribué pour la première fois à Jerry West. C'était en 1969. C'était la première fois qu'il y avait un MVP. Et malheureusement, il joue contre Boston en 1961-62, donc saison 62. Et il va faire quelques stats. Vous savez qui est-ce qu'il y avait qui jouait à Boston à cette époque-là ?
Et Bill Russell.
Bill Russell, évidemment. Donc, énorme défenseur. Mais Baylor, par exemple, sur le match 1 que les Lakers vont perdre, il va faire 35 points, 17 rebonds. Mmh. D'accord ? Donc il se chauffe un petit peu. Match 2, 36 points, 12 rebonds. Match 3, il va monter encore un petit peu. 39 points, 23 rebonds. C'est plutôt correct. Match 4, 31 points, 14 rebonds. Mais là, il faut que les Lakers gagnent. Il faut qu'ils fassent un match fantastique. Il faut qu'ils soient incroyables. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous faire un petit 61 points, 22 rebonds.
C'est le record. Hein.
C'est le record en finale. Alors, ce n'est pas le record en play-off. Le record en play-off, c'est Michael Jordan avec 63 points. Le record en finale dans l'histoire, 61 points, 22 rebonds. Je vous répète, en face, en deuxième lame, il y avait Bill Russell. Donc imaginez un petit peu la difficulté. Sur les matchs suivants, il va être à 34 points et à 41 points. Donc il va faire quand même des playoffs assez incroyables, à plus de 40 points de moyenne, presque 18 rebonds. Mais son équipe va perdre contre Boston. Sur un dernier match où ça va jouer à 3 points d'écart seulement. Ça va donner un titre à Boston, oui, sauf que ce joueur a tourné à 40 points, 18 rebonds, et qu'il a encore, à l'heure actuelle, la meilleure marque lors de finale NBA.
Et à ton avis, si le trophée avait existé, est-ce qu'il l'aurait eu ?
À mon avis, il ne l'aurait pas eu, parce que j'ai regardé Bill Russell, c'était 23 points, 27 rebonds. Mm-hmm. C'était pas mal aussi.
Très bien. Steve ?
Ouais, écoute, c'est toujours compliqué, j'aurais pu choisir toutes les finales perdues de LeBron James, parce qu'en général, LeBron James, dans les finales NBA, toutes celles qu'il a perdues, parce qu'il en a perdu pas mal, il avait des stats hors normes. Mais je ne sais pas si ce garçon dont je vais vous parler méritait vraiment d'être MVP, mais c'est un mec qui a fait une finale NBA de haute volée, qui a tenu la dragée haute à Jordan. C'est les finales 96, c'est Sean Kemp, The Rain Man.
Ah, Sean Kemp.
Chicago Bulls, Seattle Supersonics en 96, victoire des Bulls 4-2. Et Sean Kemp, sur ses finales, c'est trois fois meilleur scoreur dans cette série, sur le match 1, sur le match 2, sur le match 4. Il finit à 23 points, 10 rebonds, 2 passes de moyenne. C'était surtout un duel exceptionnel contre Dennis Rodman, qui était son vis-à-vis. Il y a eu du trash talk, il y a eu des mauvais coups, il y a eu des fautes techniques. Mais surtout, il y a eu une action légendaire, un dunk arrière monumental de Kemp sur Rodman, où il s'assoit sur lui, pendu au cercle, et il s'essuie le popotin sur le zen de Rodman. On écoute la version live et la version originale, elle est sympa.
And Bill, Seattle has led by as many as 23, so the Bulls in the midst of their second run.
Il fait un petit spin sur la ligne de fond et il dunk arrière et il atterrit sur la tête de Dennis Rodman. Il n'y a pas eu d'embrouille. Dennis Rodman qui l'aide à redescendre, une petite tape sur les fesses. Il s'était tellement embrouillé sur cette série-là. J'avais trouvé Sean Kemp très fort, qui était un peu le meilleur joueur des Sonics sur une finale qui était très kiffante, ce Bulls Sonics. Et puis très récemment, Sean
Kemp.
C'est
Jordan qui est MVP des finales.
Mais c'est la plus petite finale en termes de scoring de Jordan face aux Sonics, 27,9 points de moyenne seulement. Parce que sur les autres, il est quasiment à plus de 30 et quasiment à 40 sur une finale. Et Sean Kemp, qui très récemment a défendu son ami Gary Payton, puisque les deux étaient dans la même équipe. On se rappelle tous des propos de Jordan dans The Last Dance, quand Gary Payton dit ah, j'ai embêté Jordan défensivement sur ces finales-là. Et Jordan qui dit non, come on, Gary. C'est comme si tu n'existais pas. Et Sean Kemp a dit que si Gary Payton avait vraiment enquiquiné Michael Jordan, voilà, Sean Kemp, parce que c'était un joueur exceptionnel, showman, fantastique. Il y a ce dunk sur Dennis
Rodman. Et le papa de Gary Payton 2.
Et bonne tête de l'art, Sean Kemp, non ? Sacrée personnalité, quoi.
Oui, qui a été pote avec Jack Daniels et William Lawson très longtemps. C'est un garçon qui passe pas par la fac, qui arrive directement de collège, donc qui est pas formé, qui est pas éduqué, donc pas mal de conneries, pas mal de dérives en dehors des terrains, mais une détente hors
un monstre être physique.
Ouais. Arnaud Valadon, qui est ton Jerry West, qui aurait mérité un titre MVP des finales en la perdant?
Stephen en a un petit peu parlé, j'ai pris LeBron et 2015 parce que c'était absolument exceptionnel. C'est la première défaite de LeBron face aux Warriors. Bronbron, il vient de retourner à Cleveland après ses années à Miami. En face, évidemment, Warriors, Curry, Thompson, Green, Iguodala, les jeunes loups, sauf pour André Iguodala, qui sera MVP de ces finales. Les Cavs sont coachés par David Blatt. Il y a Kyrie Irving, il y a Kevin Love qui sont venus, sauf que les blessures vont s'abattre sur les Cavs. Pas de Love blessé à l'épaule dès le premier tour des playoffs contre Boston. Kyrie, lui, s'est fait une cheville et n'aura joué que le match 1. Pourtant, les Cavs vont mener 2-1 dans cette série avant de s'incliner 4-2. Et LeBron aura été tout simplement exceptionnel. 36 points, 13 rebonds, 9 passes de moyenne. Il fait même un triple-double en inscrivant 40 points lors du match 5. Et dans le match 6, il est au bord d'un nouveau triple-double. 32 points, 18 rebonds, 9 passes. Alors forcément, il a pris énormément de tirs. Il n'a pas des pourcentages exceptionnels, mais il a failli à lui tout seul venir à bout des Warriors. Il aura sa revanche l'année prochaine, cette fois-ci épaulé par Kyrie. On se souvient évidemment de ce tir au match 7. Mais il était vraiment seul au monde. Alors certes, tu avais un J.R. Smith. À un moment, tu as Timofey Mozgov aussi. Mais il y avait strictement personne. Et LeBron a failli faire un exploit monumental.
Bah, vu les noms que tu me donnes, oui, on peut confirmer Timofey Mozgov.
Il est meilleur marqueur, je crois, d'un match avec 27 points.
Deuxième meilleur score de la finale. 14 points, 8 rebonds pour le Russe.
Bon, parfait. Mais il était tout seul. C'était...
Bien gaillard, Timofey Mozgov.
Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous sont venus en tête quand on a préparé cette partie historique? D'autres joueurs comme ça qui auraient mérité éventuellement?
Moi, non, pas trop.
C'était pas si évident que ça.
Non, c'était pas évident comme question. Hein.
Bah, très bien.
Ils prennent 4-0, ils se font sweeper, mais le Shaq a des bonnes stats contre Hakim. Alors, il se fait dominer, mais ses stats sont très correctes. Hein,
oui, mais tu vois, j'ai éliminé par définition ceux qui avaient pris 4-0.
Oui, c'est mort.
T'avais Iverson, mais bon, ils prennent 4-1, tu vois, ils n'ont pas existé. Ça.
Vous êtes prêts pour le quiz?
Non.
Alors, c'est parti quand même.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony, on va dire Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Mais quel porciné peut shooter sans scrupule.
Quel croquet.
Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh, Nicolas. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Ah, ok, si.
Moi, je me dis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Il y a eu des grands moments aussi dans les quiz de Basket Time, hein, comme les finales NBA. Tu peux pas savoir à l'avance.
Parfois, il se passe des trucs. C'est rarement décevant les quiz. Hein.
Ah, c'est rarement décevant.
Même s'il y a des blowouts, hein, parfois.
Oui.
C'est vrai.
Allez, on y va, on démarre. Boston et la franchise NBA, ça vous a pas échappé, la plus titrée. Ça vous a pas échappé.
Ah bon,
mais quelle est la franchise la plus titrée du sport US? Si on prend les quatre grandes ligues, NBA, NFL, NHL et MLB.
Les Red Sox?
Non.
Les Bills?
Non.
Les Rangers?
Les Dodgers?
Non.
Les Yankees?
Les Yankees, bravo Arnaud, magnifique. 27 titres pour les Yankees. Et ensuite, on change de sport, c'est en hockey, c'est le Canadien de Montréal. Avec 24 titres quand même. Hein.
Super ça, dis donc.
Ah ben écoute, on se cultive.
Avec ton chandail.
Arnaud, donc tu marques un point pour les New York Yankees. Qui a déclaré « Je n'ai pas de mots, je suis désolé ».
Lucas. Non.
Je n'ai pas de mots, je suis désolé.
Non.
Jason Kidd.
Non.
Je n'ai pas de mots, je suis désolé.
Céline Dion.
Comment?
Lively.
Non.
Céline Dion.
Tatum.
C'est Tatum, c'est Jason Tatum. Ah. Vous avez vu cette interview d'après-match quand même, il était hyper ému. Très touchant ce garçon.
Avec son fils, Deuce. Ouais.
Non mais vraiment, il n'arrivait pas à répondre aux questions.
Il ne dit pas qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant ou un truc comme ça à la Steph Curry. Il est obligé de paraphraser quelqu'un.
Justement
pour retrouver
pas,
ses mots.
Il était dans l'émotion pure et dure.
Il
y a un petit cœur qui bat sous le maillot des Celtics de Jason Tatum, Fred. Et c'est toi qui as le point, Tatum.
Tatum,
et peut-être même que ça va te faire gagner ce quiz.
Imagine.
Ce serait beau, moi je trouve. Ça réconcilierait presque les fans des Lakers avec les fans des Celtics. Bon, je te laisse tranquille. Est-ce que vous allez reconnaître qui parle dans cet extrait? Écoutez bien ce qu'il dit.
Smile for us. Let's see that pretty smile. You got some loose teeth. You got a chip tooth. It's all worth it.
Écoutez bien.
Ah si, je sais. White. Derek White.
Derek White.
Quand il a dit pretty smile,
il a failli se péter. Il manque à Chico.
Il manque à Chico. Il a dit je donnerai toutes mes dents pour un titre NBA. C'est une belle phrase aussi. Non,
ça, c'était une belle phrase. Alors, ça, c'était improvisé.
Alors après, quand même, on lui conseille de refaire
Oui, rapide, rapide.
Parce que bon, c'est Fred qui a la bonne réponse du coup. Putain, mais toutes les questions sur Boston, c'est pour toi. 2-1 et 0 pour Steve. On en est où? Ah, bien sûr, un vrai ou faux sur Jerry West, évidemment. On va faire un tour comme ça dans l'ordre. On démarre avec Steve, vrai ou faux. Il a perdu 7 finales avant d'en gagner une.
C'est vrai.
C'est vrai. Il en a perdu 8, mais il a perdu surtout les 7 premières avant d'en gagner une.
Contre Boston, en plus.
6 contre Boston, 1 contre New York. C'est vrai, c'est bon. Arnaud, il a été All-Star à chacune de ses saisons NBA.
Il est All-Star dès la première, donc je dirais oui.
Eh bien, c'est vrai. 14 saisons, 14 fois All-Star.
Bravo, Jerry.
Ça, c'est incroyable quand même.
Ouais.
Hein.
Exceptionnel, Jerry.
Fred, c'est lui qui a fait venir James Worthy, Magic Johnson, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal aux Lakers.
Alors, oui, mais il n'était pas tellement pour faire venir Magic au départ.
T'as pas besoin de te justifier, la réponse est vraie.
Mais oui, mais lui, il n'était pas tellement pour. Il n'aimait pas tellement ce joueur, en fait, au départ.
3 à la draft et le Shaq en free agency en 96. C'est bon, Fred, tu gardes l'avantage. Maintenant, je vais vous donner le nom d'un joueur. Vous allez me dire si dans sa carrière, il a inscrit plus ou moins de points que Jerry West en NBA.
Sur une saison, la moyenne, c'est une...
Non, dans sa carrière.
Jerry West, il a mis combien de points dans sa carrière?
Ah bah, en cumulé.
Je ne vous le dis pas, sinon c'est trop simple.
En cumulé, alors.
En cumulé, est-ce que j'ai marqué plus ou moins de points que Jerry West, Stephen, Allen Iverson?
Plus.
Il en a marqué moins, Allen Iverson. Arnaud Valadon, Stephen Curry.
Plus.
Il en a marqué moins.
Oh.
Et enfin, Fred Weiss, Paul Pierce.
Il en a marqué moins.
Il en a marqué plus, Paul Pierce. Donc Jerry West est 25e du classement avec 25 192 points. Allen Iverson est 28e, Steph Curry 30e et Paul Pierce quand même 17e. Hein. Parfois, on néglige un peu trop l'impact de Paul Pierce sur cette ligue.
Mais ce qui est fort, c'est qu'en 14 saisons seulement... Tu vois, t'es à ce niveau, les autres ont
Exactement.
Joué presque 20 ans.
Tout à fait. C'est une très bonne remarque, je t'ajouterai presque un point.
Non, ça corrige son erreur de Tatum qui a 20 points de moyenne, oui. Parce qu'il a oublié le match 5.
Ok, deal. tiens, rien à voir avec... Enfin, rien à voir
avec, le basket.
Avec les finales, mais c'est la NBA quand même. Quel Français s'est retiré de la draft NBA là, ces dernières heures?
Ah, je l'ai vu.
Ah oui, tu l'as vu.
Ah oui, c'est Zachary Perrin.
Zachary Perrin, exactement.
Ouais.
Zachary Perrin, 19 ans.
Il va à Nancy.
Qui va à Nancy 3 ans.
Ouais.
Il a raison.
Oui.
C'est un bon
une belle
choix.
Saison de Pro B, ouais, avec Antibes.
Donc il a jamais joué en Pro A, mais il la laisse s'inscrire à la draft.
Oui, mais que ça fait un petit buzz et je crois qu'il lui reste l'année prochaine encore.
Non, mais
je crois qu'il est en avance.
Il a quel âge? Il a 19.
Ouais.
Ou 18.
C'est quel genre de joueur? C'est quoi le
Zachary Perrin, c'est un big man, poste 4, contreur,
fort.
Athlétique. Ouais, pas mal.
Bon.
Très bon avec à la Coupe du Monde U19 quand il y avait Zachary, ouais. Melvin Ajassa et tout ça.
Ouais, on revient à Jerry West.
Ah ouais.
Ouais, rien à voir.
Pas passé de très longtemps.
Non, mais en fait.
Ça, à mon avis, t'as scrollé ce matin, t'as vu Zachary Perrin enlève son nom NBA, tu dis tiens, ça fait une question du quiz.
Exactement.
Ça.
J'ai cherché de l'actu basket, j'ai rajouté dans le quiz, mais j'ai rajouté à un mauvais endroit puisque j'avais encore une question sur Jerry West. Bon, pas grave. Hein. Tiens, c'est pas facile. Là, je vous fais un point score. Fred a 3 points, Arnaud 2 points, Steve 2 points. Il est champion olympique en 1960. Jerry West, je vous demande de me citer un de ses coéquipiers, un autre champion olympique 1960 avec Team USA.
Elvin Baylor.
C'est pas bon.
Bob Cousy.
C'est pas bon.
Même c'est que c'était que des amateurs.
Bill
Russell. C'était que des
amateurs. Chamberlain.
Qu'on fait que des grandes carrières après en NBA.
Bob Petit.
Non, il y a deux joueurs très connus.
Bill Walton.
Bill Walton, c'est pas bon.
George Mikan.
C'est pas bon.
Tu voulais dire, il y en a deux qui sont connus.
Il y en a deux qui sont très connus.
Les autres, c'est en quelle année?
1960.
À Rome, c'est ça, non? C'est à Rome.
Exactement. Alors. Comment on va faire? Je vous donne une franchise peut-être. Pour le plus connu, c'est un joueur mythique des Bucks.
Alvin Gentry?
Non.
Robertson?
Oscar Robertson. Ouais, bravo, excellent. C'est bon pour Fred, un quatrième point pour Fred. L'autre, c'était Walt Bellamy. Et les autres ne sont pas très connus.
Sont pas,
hein. Bob Boozer, Jay Arnett.
Walt Bellamy, tu l'avais?
Non,
pas du tout.
Non, mais c'est le plus connu des autres. Hein. Ah, Jerry ouais. Lucas, Lester Lane.
Jerry Lucas, si. Jerry Lucas, je connais plus Jerry Lucas que Bob Bellamy.
Ah, non, Walt Bellamy.
Ok, Walt Bellamy.
Bon, peu importe, il y avait Oscar Robertson à trouver, Fred l'a trouvé. Et enfin, avant la question qui peut vous rapporter plus de points, je n'ai pas pu résister à vous faire un petit Tatum ou Batum, évidemment.
Ou les deux.
Ou les deux, ou aucun des deux.
Channing Tatum ou Jason Tatum?
Je ferai la prochaine fois. Steve.
Oui.
C'est moi qui ai joué le plus de fois les playoffs NBA.
C'est moi qui ai joué le plus de fois les playoffs NBA. Je m'appelle Nicolas Batum.
Exactement. 9 fois contre 7. Un point pour Stephen Brun. Arnaud Valadon. C'est moi qui ai le plus de médailles, Jeux Olympiques et Coupe du Monde confondus.
Il y a les deux.
Il y a les deux.
Ah, ok.
Bien sûr.
Et aucun des deux.
Bon, là, c'est la même réponse, oui. Les deux. Bah,
je pense que si Nicolas Batum, 2 médailles, une JO, une Coupe du Monde et une seule pour Tatum.
Alors, c'est la bonne réponse, mais je ne t'accorde pas le point parce qu'il en a 3, Nicolas Batum, et tu n'as quand même pas le droit de te tromper là-dessus.
Attends, JO.
JO et 2 fois la Coupe du Monde.
Eh oui. 2019.
Ah, oui, 2019 et 2014.
Donc, est-ce qu'on lui accorde le point ou pas?
Non. J'ai oublié 2014.
On lui accorde quand même.
On lui accorde quand même.
T'as vu le blouson qu'il y a là? La veste? Tu lui accordes pas?
Non, mais on lui accorde. Ça fait un score très serré. 4 pour Fred, 3 pour Arnaud, 3 pour Steve. Mais j'ai pas encore posé la question à Fred, Tatum ou Batum, les deux ou aucun des deux. J'ai gagné la Coupe de France de basket.
Aucun des deux.
Aucun des deux, bravo. C'était juste pour savoir si Batum a gagné.
Et tu sais qu'il y a un gros débat sur Nicolas Batum. Il dit qu'il a été champion de France avec Le Mans et Vincent Collet. Vincent Collet dit non, il n'a pas été champion de France parce qu'il était un jeune espoir.
Un jeune espoir, ouais.
Donc avant la question multipoint, Steve a 3 points. Arnaud,
je passe mes vacances à Lisieux. Tatum, Batum.
Et Fred
ou Marine Johannes.
À 5 points, je vais vous demander. Alors il y a 13 bonnes réponses possibles. C'est pas facile. Je vais vous demander les MVP des finales. Avec les Celtics ou les Lakers? Bien sûr, Fred, j'avais pas de
choix. Je commence.
Pas. Non, tu commences pas parce que c'est toi qui as le plus de points. C'est
le MVP des finales avec les Celtics ou les Lakers.
Voilà. Je vous ai mis les Lakers parce que franchement, les Celtics, c'est plus difficile. Un par un, vous me donnez un nom, je vous accorde un point à chaque fois. Steve, tu démarres. En cas de mauvaise réponse, vous êtes éliminé, hein, évidemment.
6.
Non, c'est chacun son tour.
Pardon. Excuse-moi. Jaylen Brown?
Eh bien, bien sûr, Jaylen Brown, 2024, un premier point pour Steve. Arnaud?
Shaquille O'Neal,
2000, 2001 et 2002, bravo Arnaud.
Magic. Le seul rookie à l'avoir fait.
80, 82 et 87, vous avez chacun un point. Steve?
Kobe Bryant,
2009 et 2010, c'est bon Arnaud.
LeBron James
en 2020, c'est bon. Fred?
J'ai un doute. Je sais plus si tu as dit le Shaq, donc je vais dire Abdul-Jabbar.
Alors Abdul-Jabbar, c'est pas bon, non. Donc tu en restes là. Donc vous pouvez gagner ce quiz puisque Fred est à 6 points et vous êtes chacun à 5.
Vous l'aviez dit, Shaq?
Oui, je l'ai dit. Ouais.
Steve?
Bill Russell?
Bill Russell, c'est pas bon. Ah oui, mais alors... Non, attends. Je voulais vous donner l'indice que... Il n'y avait pas à l'époque de Bill Russell, les MVP des finales. Le plus ancien, c'est 1969 dans ma liste. Donc, il ne faut pas les chercher avant.
Bah parce que ça n'existait pas avant.
Oui, exactement. Donc, il ne faut pas les chercher avant.
On en a parlé pendant le podcast.
Alors, à toi, Steve.
Larry Bird, alors.
Larry Bird, c'est bon, 1984 et 1986. Arnaud.
Paul Pierce,
c'est bon, 2008. Alors, il vous en reste, je vais vous faire le point. Tout le monde est à 6 points.
Il en reste
1, 2, 3, 4, 5, 6 exactement.
Il en reste combien?
Il en reste 6.
Il en reste 6?
Ouais. Il y en a qui sont vraiment pas faciles. Vraiment pas faciles. Mais il y en a des faciles encore.
Il y en a des faciles encore?
Oui, à toi, Steve.
Finale NBA.
Oui.
Finale NBA, je vais tenter un James Worthy.
Oh, il me l'a piqué.
Oui.
C'est bon, en 1988. Bravo, Steve. Oh. Arnaud. Il y a quand même Fred qui vous a donné un indice gros comme une maison il y a un instant, vous ne l'avez pas écouté, tant pis pour vous.
Ah bon?
Bah oui.
Ah,
c'est bon. Moi je l'ai donc je suis.
Ok.
C'est même hallucinant s'il vous plaît, en fait.
Hallucinant.
Tu réfléchis ou pas?
Oui, je réfléchis.
Il en reste
5 donc.
Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Alors je vais vous dire, il en reste 2 des Lakers et 3
des Celtics.
Arnaud, tu vas te manger les doigts quand tu vas comprendre.
Quand je vais comprendre.
Oui, quand tu vas comprendre, oui. Parce que l'information, tu l'as
forcément.
C'est
bon, là, maintenant, c'est fini.
Cette information, tu l'as forcément. Et je ne vais pas en dire plus.
Ah, mais Jerry West.
Ah, bah quand même, il a fait que ça monte au cerveau, mon grand. Quoi.
En plus, il a fait un papier dessus, quand même, le mec.
69, bah oui.
En 69. Donc, il nous en reste 4. 2 trouvables, 2 très difficiles. Il n'y a plus de facile, là.
Il n'y a plus de facile?
Bah, il y a une méga star d'NBA. mais c'est pas forcément le premier auquel on pense. Il y a quand même une méga star de l'histoire de la NBA, un des plus grands joueurs de l'histoire.
Deux à Boston, deux aux Lakers.
Alors là, non, maintenant, il reste trois Boston, un Lakers.
Ah, trois Boston, un
Lakers. Et le très, très connu, c'est avec les Lakers.
Je crois que je l'ai.
Après, il y en a quand même un qui est très connu avec Boston. Je te laisse un peu de temps parce que j'ai tellement aidé Arnaud.
C'est pas bon, Fred l'a dit, il a été éliminé là-dessus. James Porter, on l'a dit. Magic Johnson, on l'a dit.
Du coup,
si c'est pas Kobe, Jabbar. On l'a dit. Shaq, on l'a dit. On a dit un cinquième Lakers. Qui était...
Alors, les Lakers qu'on a dit, il y a Magic, James Worthy, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James et Jerry West. Ouais. Et si c'est pas Jabbar,
c'est Will Chamberlain.
Voilà. Je suis obligé de l'aider un peu, Arnaud. Oui, non, je me fais une phase d'est. Donc, il nous en reste 3 et Steve a 8 points, Arnaud 7. Maintenant, tu te débrouilles avec les Celtics des années.
Je vais tenter. Bah, Havlicek.
Magnifique. Magnifique. Je pense qu'on va.
C'est Havlicek.
Alors... peut-être se quitter sur un match 1. Il en reste 2. Je vais vous donner les années parce que c'est assez dur. 1976 et 1981 avec les Boston Celtics.
1976-1981, donc Paris n'a jamais été MVP des finales. Kevin McHale, il n'a pas joué Celtics.
Jusqu'ici, ton raisonnement est bon.
Il a joué Celtics, mais il n'a pas été MVP des finales. Ouais. Je vais tenter.
Oui, tente-le.
Je vais tenter un
oui,
mec.
Oui, tu l'as.
Improbable. Je sais son nom m'est venu, mais ce n'est pas une vraie star des Celtics.
Avec son prénom de merde.
Je vais tenter Cédric McCoy.
Voilà, bravo. Et... non, je kiffe parce que j'ai senti la montée jusqu'au cerveau de cette information. C'est magnifique ce qui s'est passé dans ta tête. Parce
c'est 81, c'est avec Maxwell.
Ouais, tu prends la tête, il reste 1976.
Écoute, je vais tenter, mais je suis pas sûr de moi. Je pense que c'était un peu après. Casey Jones.
Non, c'est ouais. Pas bon. Il nous manquait juste Jojo White.
Jojo White. Il a joué à Nancy. C'est un pivot blanc. Non, c'est Jojo Garcia, je crois.
Bravo Stephen, tu as
merci.
Quiz. À la semaine
merci
prochaine.
Merci Cédric. Merci Maxwell. Basket Time.